Les quatre vieilles, l'impôt sur le capital et l'impôt sur le revenu. S'agissant de l'introduction de l'impôt progressif sur le revenu en 1914, il faut tout d'abord rappeler que les quatre contributions directes créées en 1790-1791 par les législateurs révolutionnaires, les quatre vieilles, avaient pour caractéristique essentielle de ne jamais dépendre directement des revenus du contribuable. Par rejet affiché pour les procédés inquisitoriaux associés à l'Ancien Régime, et sans doute aussi afin d'éviter à la bourgeoisie en plein essor d'avoir à payer des impôts trop importants, le législateur révolutionnaire avait en effet choisi d'instituer une fiscalité dite indiciaire, dans le sens où chaque contribution était calculée à partir d'indices, censés mesurer la capacité contributive du contribuable, et non pas à partir du revenu lui-même, qui n'avait jamais à être déclaré. La contribution sur les portes et fenêtres était par exemple établie en fonction du nombre de portes et fenêtres de l'habitation principale du contribuable, indicateur d'aisance qui avait le grand mérite pour le contribuable de permettre au fisc de déterminer l'impôt dû sans avoir à pénétrer dans sa maison et encore moins dans ses livres de compte. La contribution personnelle mobilière, actuelle taxe d'habitation, était due par tous les contribuables en fonction de la valeur locative de leur habitation principale. Comme les autres contributions, sauf celles sur les portes et fenêtres définitivement supprimées en 1925, elle devint un impôt local à la suite de la mise en place d'un système national d'impôt sur les revenus en 1914-1917 et continue en ce début du XXIe siècle de financer les collectivités territoriales. La contribution des patentes, actuelle taxe professionnelle, était due par les artisans, commerçants, industriels, suivant des barèmes fixés pour chaque profession, en fonction de la taille de l'entreprise et des équipements utilisés, mais sans liaison directe avec les bénéfices effectivement réalisés par les uns et les autres, qui n'avaient pas à être déclarés. Enfin, la contribution foncière, actuelle taxe foncière, était due par les détenteurs de biens immobiliers, qu'il s'agisse de propriétés bâties, maisons, immeubles, etc., ou non bâties, terrains, forêts, etc., en proportion de la valeur locative des biens, quel que soit leur usage, personnel, locatif ou professionnel. Ces valeurs locatives, de même que celles utilisées pour le calcul de la contribution personnelle mobilière, n'avaient là encore pas à être déclarées par le contribuable. Elles étaient fixées lors de grandes enquêtes organisées tous les 10-15 ans par l'administration fiscale pour recenser l'ensemble des propriétés bâties et non bâties du pays, en fonction notamment des nouvelles constructions, des dernières mutations et des divers ajouts apportés au cadastre. Dans un contexte monétaire marqué par une inflation quasi nulle et une très lente évolution des prix entre 1815 et 1914, on considérait que ce système d'ajustement périodique était suffisant, d'autant plus que cela évitait aux contribuables le tracas de la déclaration. La contribution foncière était de loin la plus importante des quatre vieilles, puisqu'elle rapportait à elle seule plus des deux tiers des recettes totales au début du XIXe siècle et encore près de la moitié au début du XXe siècle. Il s'agissait de fait d'un impôt sur le capital, sauf que seul le capital immobilier et les biens réels étaient concernés. Les actions, obligations, parts de société et autres actifs financiers étaient exclus, ou plus précisément, ils n'étaient imposés qu'indirectement, dans la mesure où les sociétés en question possédaient de tels biens immobiliers, par exemple des immeubles utilisés comme bureaux ou entrepôts, auquel cas elles devaient acquitter la contribution foncière correspondante. Mais lorsqu'il s'agissait de sociétés industrielles ou financières, dont les principaux actifs accumulés dans le passé étaient immatériels, brevets, savoir-faire, réseaux, réputation, capacités organisationnelles, etc., ou bien s'il s'agissait d'actifs investis à l'étranger, ou bien encore d'actifs mal pris en compte par la contribution foncière et les autres contributions directes, par exemple des machines ou des équipements, en principe soumis à la patente, mais en pratique de façon souvent moins importante que leur profitabilité réelle. Alors, le capital en question était de fait exonéré ou peu taxé. Ces actifs apparaissaient sans doute négligeables à la fin du XVIIIe siècle par comparaison aux actifs réels, maisons, terrains, immeubles, fabriques et entrepôts. Mais le fait est qu'ils jouèrent un rôle de plus en plus central au cours du XIXe siècle et au début du XXe. En tout état de cause, le point essentiel est que la contribution foncière, de même que les droits de succession jusqu'en 1901, était un impôt strictement proportionnel sur le capital. L'objectif n'était en aucune façon de redistribuer les propriétés ou de réduire les inégalités, mais bien plutôt d'asseoir un prélèvement aussi léger et indolore sur la propriété. Le taux de prélèvement annuel se situait tout au long du XIXe siècle et jusqu'en 1914 autour de 3%-4% de la valeur locative des biens, c'est-à-dire moins de 0,2% de la valeur des propriétés, compte tenu du fait que les rendements locatifs se situaient généralement autour de 4%-5% par an. Il est important d'insister sur le fait qu'un impôt sur le capital, lorsqu'il est strictement proportionnel et prélevé à un taux aussi bas, peut être une excellente affaire pour les détenteurs du capital, et de fait était considéré sous la Révolution française et tout au long de la période 1800-1914 comme le système fiscal idéal par les propriétaires. En acquittant un paiement annuel d'à peine 0,2% de la valeur de son capital et un prélèvement supplémentaire de 1% au moment où le fils succède à son père, chaque propriétaire obtenait le droit de s'enrichir et d'accumuler en paix, de faire fructifier ses propriétés au maximum de ses possibilités sans même avoir à déclarer les revenus et bénéfices produits par le capital et avec la garantie que les impôts payés ne dépendaient pas des profits réalisés et du rendement obtenu. Parce qu'il est peu intrusif et donne les pleins pouvoirs aux propriétaires, l'impôt sur le capital proportionnel et à faible taux a souvent eu les préférences des détenteurs de patrimoine. On retrouve cette attitude politique non seulement à l'époque de la Révolution française et au XIXe siècle, mais également tout au long du XXe siècle et jusqu'au début du XXIe siècle. En revanche, quand l'impôt sur le capital prend la forme d'un véritable prélèvement progressif sur la propriété, il devient alors le plus effrayant des impôts pour les propriétaires, comme nous aurons l'occasion de le voir quand nous étudierons les évolutions et les débats du XXe siècle. L'impôt sur le capital à faible taux, qu'était la contribution foncière, constituait également l'outil institutionnel utilisé pour conférer le pouvoir politique aux propriétaires en France à l'époque des monarchies censitaires, 1815-1848. Sous la première Restauration, le droit de vote en France était par exemple réservé aux hommes âgés de plus de 30 ans et acquittant au moins 300 francs au titre des contributions directes, soit autour de 100 000 personnes, environ 1% des hommes adultes. En pratique, comme la contribution foncière représentait la plus grande partie des recettes des quatre vieilles, cela signifie que le suffrage concernait grosso modo les 1% des propriétaires fonciers et immobiliers les plus riches du pays. Autrement dit, les règles fiscales favorisaient l'accumulation en paix et permettaient dans le même temps de formuler des règles politiques pour s'assurer qu'il en irait toujours ainsi. Jamais le régime inégalitaire propriétariste ne se mit en scène aussi clairement. La société de propriétaires qui s'épanouit en France de 1815 à 1848 reposait de façon parfaitement explicite et transparente sur un régime de propriété tout autant que sur un régime politique qui en garantissait la pérennité. Nous verrons dans le prochain chapitre que des mécanismes similaires s'appliquaient également dans les autres pays européens, par exemple au Royaume-Uni et en Suède. Le suffrage universel, les nouveaux savoirs, la guerre. À la suite de la Révolution de 1848 et de la brève application du suffrage universel lors de la Deuxième République, puis de nouveau avec la mise en place de la Troisième République et le retour du suffrage universel en 1871, les débats sur la progressivité fiscale et l'imposition des revenus reprirent de plus belle. Dans un contexte de forte expansion industrielle et financière, où la prospérité des profits manufacturiers et bancaires était visible par tous, tout autant que la stagnation des salaires ouvriers et la misère du nouveau prolétariat urbain, il apparaissait de plus en plus invraisemblable que les nouvelles sources de richesse ne soient pas mises davantage à contribution. Même si la question de la progressivité continuait d'effrayer, il fallait bien faire quelque chose. C'est dans ce contexte que fut adoptée la loi du 28 juin 1872, instituant l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières, IRVM. Cet impôt venait en quelque sorte compléter les quatre vieilles, puisqu'il frappait des formes de revenus jusqu'ici largement oubliées par le système de contribution directe mis en place en 1790-1791. De fait, l'IRVM incarnait pour l'époque une certaine modernité fiscale, d'autant plus qu'il était doté d'une assiette très large. Étaient concernés non seulement les dividendes versés aux actionnaires et les intérêts reçus par les porteurs d'obligations, mais également les revenus de toute nature que le détenteur de valeurs mobilières pouvait être amené à recevoir en sus du remboursement du capital engagé, quel que soit l'intitulé juridique exact de ces paiements, distribution de réserves, primes de remboursement, plus-value liée à la dissolution de la société, etc. Les données issues de l'IRVM ont d'ailleurs souvent été utilisées pour mesurer pour la première fois la forte croissance de ses revenus entre 1872 et 1914. Cet impôt était en outre prélevé à la source, c'est-à-dire qu'il était acquitté directement par l'entité émettrice des valeurs mobilières en question, banque, société de capitaux, compagnie d'assurance, etc. Du point de vue du taux d'imposition, l'IRVM se situait cependant dans la droite ligne du régime fiscal en place. Le nouvel impôt était strictement proportionnel et pesait à un taux unique de 3% sur tous les revenus mobiliers, qu'il s'agisse de minuscules intérêts touchés par un petit porteur d'obligations pour sa retraite ou d'énormes dividendes représentant plusieurs centaines d'années de revenus moyens reçus par un grand actionnaire au portefeuille diversifié. Le taux fut porté à 4% en 1890, et c'est ce niveau d'imposition qui s'appliqua jusqu'à la Première Guerre mondiale. Il aurait été techniquement facile de porter ces taux à des niveaux plus substantiels et de mettre en place un barème progressif. Mais le fait est qu'aucun gouvernement ne prit une telle responsabilité. Si bien que la création et l'application de l'IRVM entre 1872 et 1914 n'eurent finalement qu'une importance quasiment négligeable du point de vue de l'accumulation et de la perpétuation de fortunes importantes. Les débats se poursuivirent, et après de multiples péripéties, la Chambre des députés adopta une première fois, en 1909, le projet de création d'un impôt général sur le revenu, IGR. Il s'agissait d'un impôt progressif pesant sur le revenu global des contribuables, c'est-à-dire la somme des revenus des différentes catégories, salaires, bénéfices, loyers, dividendes, intérêts, etc. Conformément au projet déposé en 1907 par le ministre radical des Finances Joseph Caillaux, le système comprenait également un ensemble d'impôts dits cédulaires, c'est-à-dire pesant séparément sur chaque catégorie ou cédule de revenus, destiné à imposer un plus grand nombre de contribuables que l'IGR, qui pour sa part était conçu pour toucher uniquement une minorité de contribuables aisés, suivant un barème progressif, de façon à assurer une certaine redistribution des revenus. Le projet Caillaux était toutefois relativement modeste, dans le sens où le taux applicable aux revenus les plus élevés dans le cadre de l'IGR était de seulement 5%. Mais les opposants dénoncèrent cette machine infernale qui, une fois lancée, ne pourrait jamais s'arrêter, de la même façon que pour l'impôt successoral, voire avec davantage de fougue, car l'obligation de déclaration des revenus était vécue comme intrusive et insupportable. Le Sénat, aussi hostile à l'impôt progressif sur le revenu qu'il l'avait été à l'impôt progressif sur les successions, refusa de voter le texte et bloqua l'application du nouveau système jusqu'en 1914. Caillaux et les partisans de l'impôt sur le revenu avaient pourtant utilisé tous les arguments à leur disposition. En particulier, ils firent valoir à ceux de leurs adversaires qui prédisaient que les taux supérieurs atteindraient rapidement des niveaux astronomiques que les taux de l'impôt progressif sur les successions n'avaient en réalité que relativement peu changé depuis 1901-1902. Parmi les facteurs qui jouèrent un rôle important dans l'évolution des représentations, il est particulièrement intéressant de noter que la publication des statistiques issues des déclarations de succession, qui suivit de peu la création d'un impôt progressif sur les successions par la loi du 25 février 1901, contribua à remettre en cause la vision d'une France égalitaire, qui était souvent évoquée par les adversaires de la progressivité. Lors des débats parlementaires de 1907-1908, les partisans de l'impôt sur le revenu firent fréquemment allusion à ces nouvelles connaissances afin de montrer que la France n'était pas ce pays de petits propriétaires que leurs adversaires aimaient décrire. Joseph Caillaux lui-même fit lecture aux députés de ces statistiques et, après avoir constaté que le nombre et le montant des très grosses successions déclarées chaque année en France atteignaient des niveaux proprement astronomiques, conclut « Nous avons été conduits à croire, à dire que la France était le pays des petites fortunes, du capital émietté et dispersé jusqu'à l'infini. Les statistiques que le nouveau régime successoral nous fournit nous obligent à en singulièrement rabattre. Messieurs, je ne puis dissimuler que ces chiffres ont pu dans mon esprit modifier quelques-unes de ces idées préconçues auxquelles je faisais allusion tout à l'heure, qu'ils m'ont conduit à certaines réflexions. Le fait est qu'un nombre fort restreint de personnes détiennent la plus grande partie de la fortune du pays. » On voit ici comment une innovation institutionnelle majeure, l'introduction d'un impôt progressif sur les successions, peut conduire, au-delà de ses effets directs sur les inégalités, à la production de connaissances et de catégories nouvelles permettant d'influer sur les évolutions politico-idéologiques en cours. En l'occurrence, Caillaux n'allait pas jusqu'à calculer la part des différents déciles et centiles dans l'annuité successorale de l'époque, mais les chiffres bruts étaient suffisamment parlants pour que chacun réalise que la France ne ressemblait guère au pays de petits propriétaires décrit par les adversaires de la progressivité. Ces arguments eurent un impact certain à la Chambre et sur la décision de renforcer la progressivité de l'impôt successoral en 1910, mais ils s'avérèrent cependant insuffisants pour convaincre le Sénat d'accepter la création d'un impôt progressif sur le revenu. Il est difficile de dire combien de temps aurait pu durer la résistance sénatoriale en l'absence de la Première Guerre mondiale, mais il est certain que les tensions internationales de 1913-1914, et notamment les nouvelles charges financières créées par la loi sur le service militaire de 3 ans et les impératifs de la défense nationale, contribuèrent de façon décisive à débloquer la situation, sans doute davantage que les bons résultats des radicaux et des socialistes aux élections de mai 1914. De nombreux rebondissements marquèrent ces débats, dont le plus spectaculaire fut sans doute l'affaire Calmette, du nom du directeur du journal Le Figaro, assassiné dans son bureau le 16 mars 1914 par la propre femme de Joseph Caillaux à la suite de la violente campagne menée contre son mari. Toujours est-il que c'est finalement dans le cadre de la loi de finances adoptée en urgence le 15 juillet 1914, 2 semaines après l'attentat de Sarajevo et à peine plus de 2 semaines avant la déclaration de guerre, que le Sénat accepta d'inclure au dernier moment les articles concernant l'IGR adoptés par la Chambre en 1909, non sans avoir obtenu que la progressivité soit réduite encore un peu plus. Le taux applicable aux revenus les plus élevés fut abaissé de 5% à 2%. C'est ce système d'impôt progressif sur le revenu qui s'appliqua pour la première fois en France au titre de l'imposition des revenus de 1915, en pleine guerre, et qui s'est appliqué chaque année jusqu'à nos jours après moult réformes et péripéties. De même que pour l'impôt successoral, il fallut toutefois attendre la fin de la guerre et surtout l'entre-deux-guerres pour que les taux les plus élevés atteignent des niveaux modernes, plusieurs dizaines de pourcents. Pour résumer, de la Révolution française jusqu'à la Première Guerre mondiale, le système fiscal en vigueur en France offrait des conditions idéales pour l'accumulation et la concentration des fortunes, avec des taux d'imposition applicables aux revenus et patrimoines les plus élevés qui ne dépassèrent jamais quelques pourcents, c'est-à-dire des niveaux symboliques sans impact véritable sur les conditions de l'accumulation et de la transmission. Des coalitions nouvelles et des transformations politico-idéologiques profondes avaient commencé à se mettre en place avant la guerre, en particulier à la suite de la création de l'impôt progressif sur les successions en 1901, mais elles ne firent pleinement sentir leurs effets qu'à partir de l'entre-deux-guerres, et plus encore dans le cadre du nouveau pacte social, fiscal et politique adopté en 1945 à l'issue de la Seconde Guerre mondiale.